Chapitre 2. Magda poussa le coffret d'argent délicatement sculpté sur le côté de l'établi, près d'un jeu d'outils d'orfèvre soigneusement rangé. Des pierres semi-précieuses reposaient dans une série de minuscules paniers, non loin d'un carnet noir rempli de notes rédigées par Baracus. Un moment, la jeune femme laissa glisser sa main à l'endroit où s'appuyait celle de son mari quand il travaillait ici, très tard dans la nuit, fabriquant d'extraordinaires artefacts tels que la fabuleuse amulette qu'il avait créée juste au début de la guerre. Quand Magda l'avait interrogé sur le bijou, il avait répondu qu'il s'agissait d'un symbole lui rappelant à tout moment sa mission, son pouvoir, son devoir et sa raison d'être. L'illustration de la première directive d'un sorcier de guerre. Entailler la chair de ses adversaires afin de les blesser jusqu'au plus profond de leur âme. Le rubis enchâssé au milieu des entrelacs de lignes représentait justement le sang des ennemis en question. Le bijou dans son ensemble, lui, symbolisait ce que Baracus appelait la danse avec les morts. Après l'avoir fabriqué de ses mains, il avait porté l'amulette en permanence. Pourtant, il l'avait laissée dans l'enclave privée du premier sorcier, avec son étrange tenue noire et or, l'uniforme et l'armure d'un sorcier de guerre, avant de se jeter dans le vide du haut des remparts de la forteresse. Repoussant derrière son épaule ses longs cheveux bruns, Magda se tourna vers ses 7 visiteurs. Parmi eux, elle reconnut aisément 6 membres du conseil, dont l'expression fermée ne la surprit pas. Une façon de cacher leur honte face à ce qu'ils savaient être inévitable, une horreur à laquelle ils acceptaient d'assister sans broncher. Magda les attendait, bien entendu. Mais pas si tôt. Encore naïve, elle avait espéré qu'il lui laisserait un peu plus de temps, un tribut à leur ancienne amitié. Le 7e homme portait une longue tunique grise dont la capuche dissimulait son visage. Mais tandis qu'il avançait dans la chiche lumière filtrant des volets, il la rabattit, dévoilant ses yeux noirs rivés comme ceux d'un vautour sur ce qu'il pensait être une proie à l'agonie. Depuis longtemps, Magda s'était habituée à ce que les hommes la regardent, mais pas de cette façon-là. Doté d'un cou de taureau, une barbe de 3 jours lui mangeant les joues, l'homme, au front largement dégarni, arborait une courte chevelure noire frisée. Avec ses rides qui évoquaient une succession de creux et de bosses dessinant des cercles concentriques autour de son nez camu, tout en lui évoquait l'absence de compassion et de bonté. Des qualités que personne au monde ne lui aurait prêtées, en tout cas dès qu'on connaissait sa réputation. Pas vraiment laid, il était plutôt hors du commun, mais pas dans un sens très flatteur, même si une incontestable aura d'autorité compensait un peu son apparence revêche. Lautin, le procureur en chef de la forteresse, un homme puissant connu pour son sens intransigeant de ce qu'il tenait pour la justice. Son étrange visage, combiné à ses yeux de rapace, n'incitait pas à l'oublier une fois qu'on avait eu l'infortune de le rencontrer. Mais que faisait-il avec les membres du conseil, venant s'acquitter avec eux d'une tâche sans importance? Pour un homme comme lui, le temps n'était-il pas plus précieux que l'or? Avec ses rides comme gravées dans du granit, Lautin ne semblait guère disposé à l'indulgence, à l'inverse de ses compagnons. D'après ce que savait Magda, le procureur ne connaissait pas le doute, il ne regrettait aucun de ses actes et considérait la pitié comme le plus méprisable des sentiments. Aussi dur que ses traits le laissaient penser, il exécutait son travail, ses basses œuvres, auraient dit certains, avec une détermination inébranlable et une bonne conscience à toute épreuve. Moins d'un mois plus tôt, tout le monde était resté bouche bée lorsqu'il avait accusé de trahison toute l'équipe du temple. En d'autres termes, les héros qui, obéissant aux ordres du conseil, avaient rassemblé des artefacts dangereux dans le temple des vents avant d'expédier l'édifice de l'autre côté du voile, oui, au cœur du royaume des morts, afin de mettre ses trésors en sécurité jusqu'à la fin de la guerre. Le procès des félons avait fait sensation. Avec sa logique implacable, Lautin s'était attaché à démontrer que les accusés, allant bien au-delà de leur mission, avaient transféré dans le temple plus d'objets que prévu et s'étaient arrangés pour qu'on ne puisse plus jamais les récupérer. En guise de défense, quelques-uns des traîtres avaient argué qu'ils entendaient contribuer à la croisade de l'Ancien Monde visant à libérer l'humanité de la magie, un tyran plus terrible que tous les autres à les en croire. L'exécution des 100 membres de l'équipe du temple avait marqué le triomphe de Lotin. Un procureur au réquisitoire au moins aussi acéré que le tranchant de la hache du bourreau chargé de décapiter les coupables. Ne s'arrêtant pas là et de sa propre autorité, l'héroïque Lotin avait traversé le voile, s'aventurant dans le royaume des morts afin de gagner le temple des vents. Bien entendu, tout le monde avait tremblé pour lui. Perdre un sorcier si doué et tellement puissant en un moment pareil. Mais Lotin était revenu vivant de son improbable voyage. Secoué, certes, mais vivant. Hélas, les dégâts provoqués par les traîtres s'étaient révélés trop graves pour qu'il puisse les réparer. Une défaite bien compréhensible dont personne ne lui avait tenu rigueur. Quand il fut arrivé devant Magda, le procureur se fendit d'un effet de manche des plus protocolaires. « Dame Cyrus, puis-je vous adresser toutes mes condoléances suite au décès brutal et prématuré de votre époux ?»«
C'était un grand homme, » souffla un des conseillers en avançant d'un pas.
D'un regard, Lotin le contraignit à reculer.
« Merci, procureur Lotin, » répondit Magda.
Regardant le conseiller téméraire, elle ajouta
« Mon mari était vraiment un grand homme. »
Lotin arqua un sourcil noir comme le jais.
« Et pourquoi, selon vous, un homme de cette envergure, adoré par son peuple et sa splendide épouse, a-t-il choisi de se jeter du haut des remparts pour aller s'écraser sur des rochers au terme d'une chute vertigineuse ?»
Magda opta pour la vérité, tout simplement.
« Je n'en sais rien, procureur Lotin. Il m'avait chargé d'une mission ce jour-là. À mon retour, il était mort. »«
Intéressant, » souffla Lotin en se massant lentement le menton. « Dois-je comprendre qu'il s'est arrangé, selon vous, pour que vous ne puissiez pas voir sa dépouille réduite en bouillie par l'impact avec les rochers ?»
Magda sentit sa gorge se serrer. Malgré ses saines résolutions, elle n'avait pas pu s'empêcher d'imaginer des milliers de fois le cadavre de Barakus. L'imaginer, car avant son retour, ce pauvre corps torturé avait été placé dans un cercueil scellé. Le matin même, quelques heures après qu'elle eut appris l'affreuse nouvelle, le splendide cercueil en érable sculpté avait brûlé sur un bûcher funéraire érigé devant l'enclave privée, sur les remparts d'où Barakus s'était jeté. Même si elle aurait tout donné pour voir une dernière fois le visage de son mari, Magda n'avait pas exigé qu'on ouvre la bière. Elle savait trop bien, hélas, pour quelle raison on l'avait scellée. Durant presque toute la journée, le bûcher s'était consumé devant des centaines de gens silencieux et accablés de voir réduit en cendres le chef qu'ils adoraient. Un chef qui, pour certains d'entre eux en tout cas, avait incarné tout l'espoir qu'il restait au monde. Révulsée par une question si indélicate, Magda choisit de l'ignorer.
Puis-je vous demander ce que vous faites ici, procureur Lotin ?
Dame Cyrus, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est moi qui poserai les questions à partir de maintenant.
Comme si la hache venait de s'abattre sur son cou, Magda sursauta de surprise. Mesurant son trouble, Lotin eut un sourire réconfortant d'une parfaite hypocrisie.
« Je répugne à troubler votre chagrin, madame, mais alors que la guerre nous menace tous, il y a des urgences qu'il convient de traiter pour le bien de tous. C'est pour ça que je suis là, ni plus ni moins. »
Concentrée sur ses propres urgences, Magda n'était pas d'humeur à subir un interrogatoire. Mais connaissant cet homme, il ne la lâcherait pas avant d'avoir eu ce qu'il voulait, l'empêchant ainsi de régler définitivement ses affaires en cours. Dans ce contexte, se résigner à répondre semblait la moins mauvaise option.